C'est le Super Daily. Super Daily. C'est le Super Daily.
Toute l'actu social média servie sur un podcast.
Bonjour, je suis Thibaut Tourvieille de La Broue et vous écoutez le Super Daily. Le Super Daily, c'est le podcast quotidien qui décrypte avec vous l'actualité des médias sociaux. Ce matin, je suis avec Camille. Salut Camille.
Salut Thibaut, il est où ton déguisement de licorne?
Ouais, il dit ça parce que c'était l'anniversaire de ma fille ce week-end. Et je suis un super papa, je joue le jeu, j'ai mis une corne de licorne, c'était un grand moment. Et juste pour que tu saches Camille, on en a parlé, j'ai Lucie de Pascal Obispo dans la tête ce matin. Je ne sais pas pourquoi je me suis levé avec ça, donc aucun lien avec les licornes, mais juste pour que vous le sachiez tous.
Le petit lapsus du matin, génial.
Voilà.
Eh bien, écoute, on va parler de quoi ce matin?
Eh bien, ce matin, on va parler des micro-influenceurs. Est-ce que les micro-influenceurs sont la nouvelle cash machine des marques?
Ça fait très ricain comme titre.
Ça fait.
J'adore.
C'est un titre bait click par excellence. juste peut-être me remettre un peu de contexte avant de commencer. On le sait, il y a un contexte de méfiance envers les marques. Hein. C'est pas nouveau, c'est depuis 2016. On constate une augmentation de la méfiance des internautes envers les marques. Ils sont de moins en moins nombreux à vouloir être associés à ce que les marques font et portent en ligne et se sentent globalement moins proches des valeurs véhiculées par les marques. Alors ça pose forcément quelques problèmes dans ce contexte de course à l'attention. Et on a vu les marketeurs et les marques plonger vers de nouveaux leviers d'acquisition de visibilité. Et c'est comme ça qu'est né l'influence marketing qui existe depuis longtemps, mais on a vu vraiment les budgets consacrés à l'influence marketing augmenter. J'ai une étude de l'INUKIA qui est une société d'études et qui a été faite auprès de 170 marketeurs et qui raconte que 39% des agences et annonceurs ont augmenté leur budget d'influence marketing en 2018. Donc clairement, les budgets sont à la hausse.
Ouais, c'est des budgets énormes et c'est une très forte tendance. Hein. On sait qu'un tiers des internautes suit au moins un influenceur. Donc on suit tous des influenceurs à notre niveau. C'est aussi pour ça qu'on va parler de micro-influenceurs. On sait que 64% des internautes recommandent des produits et des marques après avoir lu des contenus publiés par des influenceurs.
Ouais, c'est énorme. Grosse. On voit l'intérêt pour les marques et les marketeurs. Là, c'est puissant. Ce qu'on constate, c'est que c'est que ce marketing d'influence, il y a eu un peu d'overdose ces derniers temps et les célébrités du web, on s'en retrouvait quand même pas mal dans la tourmente. Il y a une étude, ça c'est Statista qui propose ça, une étude qui parle des posts sponsorisés et qui dit qu'il y a une vraie saturation. Et qu'il y a de plus en plus d'agacement sur certaines publications répétitives d'influenceurs. On le sait, parfois, ces célébrités du web ont eu des comportements un peu abusifs du style « Allez, on publie tous la même photo du même hôtel, comme ça c'est fait, et on profite du week-end au soleil. » Et il y a une étude Bazaar Voice qui parle qui a été faite sur plus de 4000 consos au Royaume-Uni, en Allemagne et en France, et qui dit que 47% des interrogés se disent fatigués par ces publications. Là, répétitive, et 49% souhaitent plus de transparence et d'encadrement légal des publications. Donc c'est vrai que jusqu'à présent, tout ça était un petit peu flou et pas très transparent sur les célébrités.
Alors maintenant, les plateformes permettent, je rebondis sur ce que tu dis, d'afficher qu'un post est sponsorisé. Donc déjà, on le voit au premier coup d'œil.
Elles permettent, mais il n'y a pas d'obligation légale, donc tout le monde ne joue pas le jeu.
Oui, il y a en tout cas une possibilité qui existe du côté des plateformes. Et après, je reviens à ce que tu disais. Oui, c'est vrai que je pense qu'on voit un certain turnover du côté de l'influence marketing. Les premiers gros influenceurs du web, qui étaient d'ailleurs pour moi peut-être des youtubeurs, je pense à Norman.
Oui, tu as raison. Ouais.
Ils se sont fait un énorme cash, tu parlais de cash machine, un énorme cash là-dessus. Forcément, c'est devenu des artistes maintenant. C'est même plus des influenceurs. Là.
Moi, je parle de célébrités.
Voilà, c'est les superstars du
web. On les verra peut-être dans la ferme aux célébrités 25.
Si ça existe encore. Et du coup, ils sont devenus de vrais célébrités. célébrité. Donc, ils ont changé un peu la façon dont ça marchait. Et maintenant, les marques se tournent vers les micro-influenceurs.
Et ouais, et c'est sur ce terreau-là, hein, un petit peu de méfiance, que s'est construit l'approche influence marketing, micro-influence marketing. Et l'objectif, c'est de mettre à contribution des influenceurs de plus petit calibre, mais avec une vraie authenticité, une vraie légitimité au sein de leur communauté. On peut peut-être juste rappeler exactement ce que c'est que le principe de l'influence marketing, hein, c'est peut-être pas forcément très clair pour tout le monde.
L'influence marketing, c'est globalement ce qu'on vient de dire, ce que vous avez en tête quand vous pensez à Norman. Thibault, les micro-influenceurs et les influenceurs sont des personnes à qui les marques font confiance et font appel pour mettre en avant leurs produits. À leur manière, en fait, on va dire.
Ouais, c'est ça. L'idée, c'est d'utiliser le capital d'influence d'une personne qu'on appelle un influenceur et se dire cette personne-là a une communauté en ligne et si je la faisais parler de mon produit comme ça, avec la bienveillance qu'a sa communauté pour cet influenceur, mon produit sera visible. Et sauf que, effectivement, les célébrités, les gros influenceurs ont été un peu grossiers dans leur manière de faire. Et ce qui était recherché initialement, c'est-à-dire le reach, l'engagement, évidemment, de communauté et la création de contenus originaux pour mettre en avant les marques a un peu disparu. On s'est retrouvé avec des publis rédactionnels.
Je pense qu'avant, au départ, quand les marques se disaient pas il faut que je fasse de l'influence marketing, ils disaient il me faut Norman ou il me faut tel mec, il faut absolument que ce type-là parle de mon Fanta ou je ne sais quoi. Et aujourd'hui, ils vont chercher. Aujourd'hui, il me faut un influenceur qui parle de mon secteur d'activité ou en tout cas qui puisse mettre en avant mon produit.
Ouais, t'as raison. Et donc aujourd'hui, on est dans une situation où c'est fini les célébrités et puis place aux micro-influenceurs. Et là, on rentre dans une grosse zone de flou parce que qu'est-ce que c'est un micro-influenceur ?
Alors, en termes de...
Attends, juste, là, j'ai une blague du matin. Micro-influenceur, est-ce que c'est un influenceur avec un micro comme toi ce matin ?
Ça a failli dériver là. J'ai fait gaffe à ta question. Oui, c'est à peu près ça.
Voilà. Alors, c'est quoi un micro-influenceur ?
Un micro-influenceur. Alors, quand on parle influenceur, on parle direct de chiffres. Et bien, justement, on n'a pas vraiment de chiffres. J'ai lu ce matin que on était un micro-influenceur entre 1 et 1 million de followers.
Wow.
Alors ça, je suis pas du tout d'accord personnellement.
Ouais.
Moi, je pense plutôt qu'on devient micro-influenceur quand on passe la barre symbolique des 10 000 ou 20 000 followers. On sait par exemple sur Insta que ça débloque déjà certaines fonctionnalités, donc je pense qu'on est déjà dans l'influence à partir de ces 10 000 followers symboliquement.
Donc ça, c'est ta définition, toi, tu dirais cette fourchette.
Je dirais même 3 000, 4 000, ça dépend vraiment de beaucoup de choses, on va en reparler après. C'est au feeling, quoi.
Ouais, moi, tu vois, je mettais une fourchette qui était entre 5 et 50 000. Alors on est d'accord, en fait il n'y a pas de fourchette officielle. Un micro-influenceur, comme tu dis, c'est un peu au feeling, effectivement on sait que de toute façon c'est pas des comptes qui se comptent en centaines de milliers, c'est pas des comptes qui se comptent en millions, mais c'est des comptes qui peuvent avoir une vraie influence sur votre secteur d'activité. Et il arrive parfois que sur certains secteurs d'activité, un influenceur avec 5 000 followers soit extrêmement puissant. Je sais pas, si vous êtes dans un marché de niche, c'est carrément l'influenceur qu'il vous faut.
Et ce qui est quand même le plus intéressant avec ces micro-influenceurs qui ont peu d'audience, même si on aime quand ils en ont beaucoup, c'est qu'en fait leur engagement est énormément plus fort. On sait qu'en dessous de 10 000 followers, l'engagement est beaucoup plus fort. Et après, plus on passe de palier, plus l'engagement de ces auditeurs est faible, en fait.
C'est pour ça
que c'est une niche intéressante.
Oui, tu as raison. Je trouve que c'est exactement ça le sujet. C'est qu'est-ce que cherchent les marques et les marketeurs quand ils font de l'influence marketing ? Ils cherchent trois choses. Le reach, l'expertise, l'engagement. Et il se trouve que ces micro-influenceurs, ils permettent de répondre à tout ça. Alors, sur la question du reach, évidemment, ils ont moins de portée qu'une célébrité qui aurait 1 million, 10 millions de followers sur son compte Insta. Par contre, amis marketeurs qui vous posez ces questions-là, un micro-influenceur coûte beaucoup moins cher qu'une célébrité. Donc, le reach, on peut aller le chercher en faisant des campagnes de micro-influence intégrant plusieurs micro-influenceurs avec des micro-communautés.
Voilà, c'est la clé. On peut surtout taper sur beaucoup plus de micro-influenceurs pour faire une campagne plutôt que de tout mettre sur un ou deux célébrités.
Exactement. Ensuite, pour ce qui est de l'engagement, là-dessus, les micro-influenceurs ont carrément des atouts dans leurs mains parce que là, j'ai une petite interview sur laquelle je suis tombé d'une dame qui s'appelle Kylia Brennan, qui est la fondatrice de Hello City. et qui est interviewé par l'ADN.eu et qui dit les campagnes qui font appel aux micro-influenceurs ont un taux d'engagement de 60% supérieur au compte des personnalités très populaires, les fameuses célébrités, et poussent 6,7 fois plus de followers vers un comportement d'achat. Donc c'est quand même assez impressionnant et on voit qu'effectivement la force de la micro-influence, elle réside dans l'engagement des communautés.
Alors ouais, j'ai la même chose sous une autre forme. Les micro-influenceurs engageraient 22 fois plus de conversations par semaine sur leurs achats qu'un consommateur moyen.
Voilà, donc vu que les communautés sont plus... Alors déjà, il y a plusieurs choses qui rentrent en ligne de compte. C'est, comme tu l'as dit, il y a un phénomène assez logique et qui est algorithmique qui fait que plus on a de followers et plus l'engagement, que ce soit like, commentaire, a tendance à baisser. C'est comme ça, c'est assez logique. C'est si j'ai 10 millions de personnes, ben, le nombre de passagers clandestins au milieu de mes followers est beaucoup plus grand que quand je suis un compte plus confidentiel.
Oui, voilà. Oui, et puis c'est cette base de 5 000, 10 000, on sait que c'est un petit peu nos premiers followers. Et donc, eux ont fait le choix de venir nous suivre. Ils nous suivent pas parce qu'on est une célébrité. Du coup, ils sont plus engageants. C'est eux qui ont choisi vraiment notre personnalité pour nous suivre.
Exactement. Donc, il y a un gros sentiment de sympathie. Et donc, forcément, le taux d'engagement est beaucoup plus important. Et il faut quand même rappeler que l'objectif de l'influence marketing, c'est pas exclusivement de faire de reach. Si je veux juste faire de la portée, de la visibilité pure et dure, bah j'achète de la publicité. Hein. Finalement, je m'achète des stories Insta, je m'achète des pubs sur Facebook, je m'achète des posts Insta publicitaires et à la rigueur, je vais choper la visibilité. Ce qu'on cherche à aller chercher avec de l'influence marketing, bah c'est justement le principe de l'influence. C'est faire en sorte d'avoir des leviers d'activation plus forts sur ma marque et créer et utiliser l'empathie des communautés, utiliser aussi voilà, la bienveillance que les communautés ont vis-à-vis d'un influenceur.
Et voilà, le principe que cette campagne touche vraiment, donc on parle d'engagement là, mais touche vraiment 10 000 personnes plutôt que soit vue par 100 000 ou 200 000
Exactement.
Personnes.
Exactement, ça c'est toute la différence entre la portée et l'engagement, et après le taux d'engagement sur ma portée, combien de personnes parmi les personnes touchées, ont créé de l'engagement avec ce contenu. Le troisième point qu'on peut aller chercher sur de l'influence marketing et sur lequel là, les micro-influenceurs ont vraiment une réponse, c'est l'expertise. C'est-à-dire, on l'a dit, on vient chercher un influenceur pour qu'il parle de notre marque et pour qu'il positionne notre marque comme étant une marque de valeur sur un marché. Et là-dessus, les micro-influenceurs sont plus susceptibles de travailler des niches d'expertise très intéressantes à exploiter.
Oui, parce que ces micro-influenceurs, avant même d'avoir basculé dans le jeu du partenariat, de la collaboration avec les marques, c'était déjà des experts de leur sujet qui produisent déjà un contenu de qualité, jugé de qualité en tout cas par leurs auditeurs et qui les suivent pour ça. Donc, ils sont déjà référents sur le sujet qui justement intéressera les
gens. Tu vois, Camille, tu me parlais d'un truc il y a de ça quelques semaines en arrière en parlant d'influenceurs dans le milieu du médical sur Instagram.
Oui, on a cherché, on n'en a pas trouvé vraiment, mais on sait qu'il doit y en avoir.
Oui, et ben effectivement, si je suis un acteur du secteur médical ou pharmaceutique, et ben il y a des influenceurs qui ont des petites communautés de 3000, 4000, mais ce sont des communautés extrêmement ciblées. Et là, clairement, il y a une opportunité d'aller chercher ça, alors que mettre Norman en influenceur sur mon salon à thématique médicale, ça n'a pas tellement d'intérêt.
Ouais, non, il y a toujours des. Alors, déjà, c'est un marché de niche, et en plus, il y a des nouvelles niches à trouver, à penser pour des marques qui n'auraient pas encore, ou des marques ou des secteurs d'activité qui n'auraient pas encore opté pour l'influence marketing.
Voilà, et après, quant au format du micro-influenceur, quelle est la bonne tranche ? On a dit, la tranche, elle peut être très large. Moi, je disais 5 000, 50 000. Toi, tu disais, rappelle-moi.
Pour moi, le micro-influenceur, ça serait peut-être jusqu'à 20 000. Voilà, c'est quand il n'a pas encore vraiment joué de gros partenariats ou de collaboration, mais comme tu le dis, ça peut être du 3000 sur une audience très spécifique.
Ouais, là-dessus, il y a une étude qui est sortie par Markerly, donc on vous mettra en lien de ce podcast, et qui parle du meilleur compromis entre la taille de la communauté et l'engagement, la portée sur les posts, et qui, elle, suggère qu'entre 10 000 et 100 000 abonnés, c'est là qu'on a la meilleure combinaison entre le reach d'un compte et l'engagement. Donc peut-être qu'aussi la micro-influence, c'est justement d'être dans cette fourchette-là, 10 000, 100 000. 100 000, moi j'ai tendance à dire quand même que sur Insta, on commence à être déjà une micro-célébrité.
Un petit pro, ouais, quand même.
Voilà.
Ou même sur YouTube, c'est pas très souvent qu'on voit des comptes à plus de 100 000.
Ouais, tout à fait, ouais. Donc voilà, la force des micro-influenceurs, la spontanéité, l'authenticité et puis in fine ben, la confiance, parce qu'une marque c'est ce qu'elle va chercher quand elle fait de l'influence marketing.
Et ouais, un point aussi pour l'identifier en termes de contenu par rapport à ses contenus, si vous vous demandez si quelqu'un est un micro-influenceur ou va le devenir, souvent ils ont une tendance naturelle à soigner la qualité de leur contenu, leurs vidéos, leurs images, le design de leur mur ou de leur story. Tout est réfléchi, tout est pensé. On peut avoir un gros compte mais que ça soit totalement incohérent et au final ça ne fonctionnera pas. On cherche ça aussi nous auditeurs.
Ouais, je trouve que ça c'est un autre élément, c'est la créativité qu'ont les micro-influenceurs, qu'ont perdu sans doute les influenceurs qui aujourd'hui en gros payent leurs impôts avec les posts des marques. Un micro-influenceur effectivement, il est dans une démarche vraiment authentique, une démarche spontanée et puis du coup il est vraiment en capacité de créer la confiance avec son audience et pour ça il va produire des vrais posts. C'est-à-dire vous êtes une marque de montres, il va pas juste prendre une photo avec la montre, il va essayer de vraiment créer de la valeur ajoutée additionnelle pour sa communauté. Et ça, c'est extrêmement intéressant à aller chercher pour une marque.
Je ne suis pas juste une fille qui se met du rouge à lèvres ou un garçon qui essaye des chaussures ou des choses comme ça. Il faut que ça soit créatif et surtout que ça vous corresponde.
Oui, et puis ils sont très... un micro-influenceur est aussi très conscient hein, de l'influence qu'il a sur sa petite communauté. Il la bichonne et à partir de là, il ne peut pas se permettre de lui balancer juste un vilain post promotionnel. Et ça, c'est tout l'intérêt, c'est de travailler. Ça, c'est peut-être un autre sujet de podcast, c'est comment travailler des logiques d'ambassadeur de marque sur les réseaux. Et il est certain que les micro-influenceurs peuvent être des ambassadeurs excellents pour une marque.
Bon, et Thibaut, nos amis là sont presque arrivés au travail. On pourrait peut-être leur dire pourquoi est-ce qu'on devrait mettre des campagnes d'influence en place.
Vas-y, je t'écoute.
En règle générale, les campagnes d'influence... Ça peut avoir plusieurs objectifs, générer de nouveaux abonnés, une augmentation du trafic ou des ventes. Donc voilà, ces objectifs sont différents pour chaque marque. Juste pour quelques chiffres, le ROI d'une campagne d'influence est estimé à 9,6. Donc c'est...
Ouais, c'est énorme.
Correct.
Très correct. Tout à fait correct, on prend.
Donc voilà, l'influenceur est le nouveau prescripteur de la marque. Ça, c'est la petite intro. Alors Thibaut, pourquoi opter pour des micro-influenceurs plutôt ?
Plutôt que des
influenceurs, voilà.
Et ben pour toutes les raisons qu'on a évoquées tout à l'heure, je vais les refaire. Le reach, parce qu'on va pouvoir multiplier le reach des micro-influenceurs en mettant plusieurs dans ces opérations. Ils sont moins coûteux, plus faciles à accéder. L'expertise des sujets abordés, on va pouvoir aller travailler des sujets de niche, ce qu'on va pouvoir faire plus difficilement avec des influenceurs type célébrité. Et puis, l'engagement de leur communauté. C'est des communautés qui sont basées sur des vraies logiques d'authenticité, d'empathie, avec une vraie spontanéité de production de contenu, et donc du coup un vrai bel engagement sur ces contenus-là.
Voilà, on a parlé d'achat tout à l'heure, ils poussent 6,7 fois plus leurs followers vers un comportement d'achat qu'un méga influenceur.
Ouais, c'est énorme.
Voilà.
Est-ce que tu avais d'autres choses à rajouter sur ce sujet ?
Ben non, je crois qu'on a abordé pour une première étape, c'est pas mal. Hein,
ouais, on y reviendra hein, sur les micro-influenceurs et l'influence marketing. Il y en a qui ont écrit des bouquins, donc on n'écrira pas de bouquins, mais on fera des podcasts là-dessus. Si vous avez des remarques à nous faire, des suggestions à nous faire sur ce sujet de l'influence marketing, des questions que vous posez, n'hésitez pas à venir nous en dire deux mots sur les réseaux sociaux, sur Facebook.
Sur Instagram, LinkedIn...
Et Twitter, @supernatif avec un S.
Et vous pouvez écouter notre podcast sur Deezer, sur Spotify et bien sûr sur Apple Podcast.
Voilà, n'hésitez pas aussi à nous laisser un petit message avec un petit commentaire sur Apple Podcast, 5 étoiles si possible, ça nous fera très plaisir et surtout ça nous aide à remonter dans l'algorithme d'Apple Podcast. La vie est un algorithme, on ne le dira jamais assez. On vous souhaite à tous une très bonne journée.
Et une bonne semaine.
Et une bonne semaine et on vous dit rendez-vous à demain. Salut.
Vive les licornes.